peut-être pouvoir commencer, les 19h. Merci de vous être rendu disponible pour ce conseil exceptionnel dans le sens où il n'était pas initialement programmé. Donc j'ai l'excuse de Gilbert Zavrosa qui est au chevet de son épouse qui se faisait opérer cet après-midi. Donc il m'a dit que si elle remontait normalement à l'heure prévue du bloc, il nous rejoindrait peut-être, vu que ce n'était pas la peine. Je ferai un point avec lui demain sur les thèmes qu'on va évoquer aujourd'hui. Il a, à mon avis, d'autres sujets de préoccupation. Est-ce que Mireille consent à assurer le secrétariat de ce conseil ? Mireille Papin ?
Je consens.
Très bien. Donc Mireille est consentante et donc elle s'occupera du secrétariat de ce conseil. On va pouvoir passer à l'examen, si vous voulez, du conseil. Le premier point, c'est le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur ce conseil qui était celui du mois de décembre, me semble-t-il ? Donc pas d'observation, donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Et donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Et je vous remercie. Le second point concerne l'état des décisions du maire. Donc vous avez eu la communication. Il n'y a pas beaucoup de décisions qui ont été passées, évidemment, puisqu'en plus on était en fin d'exercice comptable. Donc il n'y a rien enfin, j'ai pas de précision à vous apporter sur l'ensemble des décisions qui ont été prises, essentiellement donc sur des contrats de renouvellement ou des commandes annuelles, donc avec un système de bons de commande, c'est-à-dire qu'on plafonne une somme et tout au long de l'année, les services, je dirais, commandent dans la limite de cette somme préalablement fixée. Le point suivant, c'est l'adoption du rapport sur l'eau. Donc là aussi, vous l'avez reçu. C'est un document qu'on vous soumet chaque année, qui ressort donc des éléments qui nous sont fournis par les services gestionnaires et de l'eau potable et de l'assainissement. Donc en ce qui concerne l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour 2022, la compétence eau potable a été transférée à Saint-Étienne-Métropole le 1er janvier 2016. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable. Conformément aux articles D2224-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport doit être présenté au Conseil métropolitain puis à l'ensemble délibérant de chaque commune. Ce rapport est public et doit être tenu à la disposition des usagers du service pour information. Je vous demande donc de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2022 de Saint-Étienne Métropole. Bien évidemment, c'est un rapport très conséquent qui est disponible en mairie. En ce qui concerne les petites synthèses que vous avez reçues, pour l'eau potable et pour la métropole, au titre de l'exercice 2022, il y avait 193 670 abonnés. Abonnés donc au réseau d'eau potable pour 402 993 habitants. Ça correspond à 24 714 880 mètres cubes mis en distribution et 19 509 028 mètres cubes consommés. Le delta, c'est potentiellement les pertes. Ce qui correspond à 133 litres d'eau potable par habitant et par jour. 99,35% des prélèvements sont conformes, des prélèvements, je dirais, sur la qualité de l'eau ont été jugés conformes. Ça correspond à un réseau de près de 2540 km hors branchement, 9 usines de production, 135 réservoirs et un rendement moyen, c'est-à-dire la différence entre ce qui est livré et ce qui est facturé, de 81,76%. En ce qui concerne notre commune, donc depuis le 1er octobre 2022, c'est SOR OELI. Alors OELI, c'est le nom spécifique à Saint-Étienne Métropole. L'entreprise, c'est SOR, donc a récupéré la délégation de services publics depuis le 1er octobre. La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau au service d'eau de la ville de Saint-Étienne. Elle provient essentiellement du barrage du Padriot, dont l'indice de protection est 80%, et le barrage de la Valette, dont l'indice de protection est également de 80%. Qu'est-ce qu'on observe ? Qu'il y a à peu près une reconduction du nombre d'abonnés, 3376 en 2021, 3250 en 2022, pour une population à Saint-Prix, 6201 en 2021, pour 6182 en 2022. Et donc, vous avez après les volumes importés, 331 000 m3 et 279 000 facturés. Donc, nous avons deux réservoirs, trois stations de pompage et un linéaire, c'est-à-dire la longueur totale des tuyaux d'eau potable, de près de 27 km. Vous avez ensuite des estimations des coûts des factures sur la base de 120 m3 et vous voyez qu'on passe, alors on est à 300,68 € TTC en 2022 par rapport à, donc en 2022 et en 2023, 285,04, donc une légère baisse du coût moyen de l'eau pour 120 m3 de 5,20%. Enfin, sur les indicateurs de performance, il y a eu 14 prélèvements avec un taux de confirmabilité de 100%. Donc voilà un petit peu l'ensemble des éléments. Le dernier à retenir sur le rendement, donc justement ce que vous disait tout à l'heure, qui est de 81,76 pour la métropole. À Saint-Prié, il est passé de 84,87 à 85,16. On a amélioré le rendement, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'on achète et ce qu'on refacture. Donc voilà les éléments sur le rapport de l'eau. Si vous le souhaitez en mairie, vous pourrez consulter l'intégralité du rapport, mais là, vous avez une synthèse qui est assez représentative. Avez-vous des questions par rapport à le rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable ? Donc, on aura en 2024, et Claude me complétera de mémoire, un chantier important sur les réseaux d'eau, c'est celui du Charpenais. Et là, c'est plusieurs centaines de mètres de linéaires qui vont être changés et raccordés. Des questions ? Donc, on peut l'adopter si vous en êtes d'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, on ne la vote pas. Juste un rapport, on le communique, c'est tout. Ben voilà. On va faire la même chose pour l'assainissement. Donc, la compétence assainissement, elle, avait été transférée à Métropole au 1er janvier 2011. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif et non collectif, conformément aux articles D2224-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales. Ce rapport doit être présenté, comme celui de l'eau, au Conseil métropolitain puis à l'Assemblée délibérante de chaque commune. Ce rapport est public et doit être tenu à la disposition des usagers du service pour information. Et donc, je vous demande donc de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif et non collectif pour 2022 de Saint-Étienne Métropole. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur les documents de synthèse ? Nous avons donc 190 154 abonnés à l'assainissement pour 411 436 habitants, 17 828 290 m3 traités et une redevance donc de 2,09 € TTC par m3. Les réseaux représentent 1955 km de réseaux d'eau usée et unitaire, 49 stations d'épuration, d'une capacité totale de 480 540 équivalents habitants et 9 227 tonnes de boue produite. Et 6 553 installations d'assainissement non collectif, donc non raccordées, pour 6 727 usagers. Donc ce sont essentiellement des installations en milieu rural. En ce qui concerne Saint-Prié-en-Jarret, donc le système d'assainissement collectif est exploité en régie, donc directement si vous voulez, on ne passe pas par un prestataire, par Saint-Étienne Métropole via une prestation de service jusqu'au 1er juin 2029. La commune dépend de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et est située sur le bassin versant Furancoise. La commune est raccordée au système de traitement suivant. On est raccordé en fait à la station d'épuration de Furania, type boue activée, de 282 000 EH. Je ne sais pas ce que c'est. Le bilan des abonnés et des volumes facturés, c'est 3 400 abonnés pour la commune et 332 434 mètres cubes facturés. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas sur la commune d'assainissement non collectif, on n'est pas concerné. On a un poste de relèvement et 13 déversoirs d'orage. Sur une facture moyenne de 120 mètres cubes, on arrive à un prix total TTC de 250,80 €. Et donc, en ce qui concerne les performances, le réseau de collecte du système d'assainissement Saint-Étienne-Furania est considéré en cours de mise en conformité et la station d'épuration de Saint-Étienne-Furania est considérée comme conforme. D'autres questions par rapport à ça ?
Oui, bonjour, Claude Bruno. Oui, puisqu'on a parlé des boues, là, on peut juste préciser que ces boues sont utilisées, ces boues sont retraitées. Il y a une grosse usine de méthanisation qui est installée au côté de Furania et également de stockage, et que ces installations, stockage et l'usine, ont été volontairement surdimensionnées pour pouvoir recueillir des boues venant d'ailleurs. C'était juste cette petite remarque que je voulais faire, puisque parfois on se pose la question, ben c'est boue, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça devient ? C'est recyclé.
Alors c'est recyclé essentiellement à usage agricole. Il y a des raccordements prévus avec des stations, je crois, de Roche-la-Molière et de Saint-Geneller, je crois, quelque chose comme ça. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au point 4. Alors, projet de vente de la parcelle, alors elle était indiquée AD253, et in fine, compte tenu des interventions que nous avons faites, cette parcelle se dénomme désormais AD291. C'est la parcelle qui accueille actuellement l'école Jean Massé. Par délibération du 11 décembre 2023, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la fermeture de l'école Jean Massé à la rentrée scolaire 2024-2025 et a sollicité l'avis de M. le préfet en vue d'une désaffectation des locaux du groupe scolaire Jean Massé. Par courrier du 22 décembre 2023, M. le préfet de la Loire a rendu un avis favorable à la demande de désaffectation. Désaffectation, ça veut dire que l'usage spécifiquement scolaire est levé. Conformément aux dispositions de l'article L2211-1 du Code général de... Alors, PPP, c'est quoi, Frédéric ? Voilà, très bien. Un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public cesse d'appartenir au domaine public à compter du jour où il a fait l'objet d'un acte de déclassement formel. Sauf disposition particulière, une simple délibération du conseil municipal suffit à faire sortir un bien du domaine public. La commune souhaite valoriser son patrimoine, mais elle doit également satisfaire aux obligations de l'article 55 de la loi SRU et justifier d'un taux de logements sociaux de 20%. Et elle souhaite donc vendre la parcelle actuellement cadastrée, donc AD253 qui va être AD291, pour permettre la construction de logements sociaux. Dans cette perspective, la SARL Igloo B612 Promotion souhaite se porter acquéreur du terrain et édifier pour le compte d'Habitat et Métropole deux bâtiments collectifs, un contenant 21 logements sociaux locatifs et l'autre 23 logements en PSLA, accession sociale à la propriété aidée. Les projets vous avaient été présentés au cours de l'année 2023. La SARL Igloo a proposé à la commune d'acheter la parcelle AD291 à raison de 1 million d'euros. Je vous rappelle qu'à ce jour, la commune ne dispose pas encore d'estimation de France Domaine, qui est obligatoire et on l'attend, et que la numérotation et la surface de la parcelle AD253 vont être prochainement modifiées. C'est fait, puisque c'est AD291. En effet, par délibération 23-11-19, le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public d'un terrain de 1272 m² issu de la parcelle AD253, dont la superficie initiale est de 8410 m². Donc on a dissocié de cette parcelle initiale une seconde parcelle qu'on met en vente. Et donc c'est la raison pour laquelle on a renuméroté ces parcelles. Il vous est donc demandé de prendre acte de la désaffectation des locaux scolaires et de la parcelle concernée et de procéder au déclassement du domaine public communal de la parcelle AD253, d'approuver la cession à titre onéreux de ladite parcelle d'une superficie de 7138 m² au profit de la SARL Igloo B612 Promotion ou toute autre société qui viendrait s'y substituer, moyennant le prix de 1 million d'euros, et de m'autoriser à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Avez-vous des questions ? Donc, désaffectation de l'usage scolaire, ce qui nous permet de vendre ce bien, qui sera maintenant donc réservé à la construction de logements sociaux. On a fait vite parce que justement l'entreprise et l'architecte sont pressés. Notre souhait, c'est qu'on puisse formaliser un préavis au début du printemps. Donc maintenant, on attend encore bien évidemment l'estimation des domaines. Eux vont déposer leur permis de construire en simultané, si vous voulez. Et l'idéal, ce serait qu'on puisse signer la vente effective à l'automne. Une fois, bien évidemment, que le site de Jean Massé aura été libéré des élèves. Des questions ? Corinne Mourgue.
Corinne Mourgue. Du coup, Christian, le prix de 1 million d'euros, du coup, on attend quand même l'estimation des domaines. Ce que je veux dire, c'est que si jamais les domaines sont plus hauts, parce que plus bas, ça ne posera pas de problème, mais plus haut, on revotera une mise à jour du prix ou...
Alors, par rapport à l'estimation des domaines, il y a deux éléments. Le premier, c'est que sur un patrimoine comme ça, ils ne savent pas trop. Hein, c'est un terrain avec une école. Donc, ils savent à peu près la hauteur du prix qu'on est prêt à céder. Et ensuite, on a une marge, c'est 10%, je crois, Frédéric, hein, plus ou moins. Ça m'étonnerait que ça aille au-delà. C'est une excellente proposition, on le sait bien, compte tenu de la situation du foncier immobilier actuellement, et en particulier à Saint-Priest, sur ce type de terrain. C'est sûr que si on avait une estimation beaucoup plus haute, on reviendrait vers l'architecte et le promoteur pour discuter avec eux et vers vous. D'autres questions par rapport à cette délibération ? Mais c'est essentiellement de valider la désaffectation de façon à ce que nous, on puisse ensuite lancer le processus de cession. Bon, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette décision est validée à l'unanimité et je vous en remercie. Nous avons un point suivant, le point 5 sur le ciel. Jacques, tu veux en parler ou je le fais ? Tu veux le faire ou je le fais ?
Comme tu veux, vas-y.
Oui, bonsoir. Jacques Pellegrin. Voilà. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il n'y a pas lieu d'envisager des travaux. Le titre, c'est Insistance intercommunale, dépose de l'éclairage et démolition du bourg. Donc, c'est l'îlot 2 du centre-bourg. Voilà. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il n'y a pas lieu d'envisager des travaux de dépose d'éclairage, démolition du bourg. Il y a lieu, pardon, conformément à ses statuts, article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel territoire d'énergie Loire peut faire réaliser les travaux pour le compte de ses adhérents. Financement, dépose de l'éclairage, donc hors taxe 2569, participation de la commune 92%, soit 2363. Voilà, le reste à charge de l'essentiel à charge de la commune. Voilà. Je vous demande de bien vouloir demander au ciel TE d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux, de dépose de l'éclairage de la partie de l'îlot 2 démoli dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Voilà. Prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que les fonds de concours seront calculés sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel TE est effectué en une seule fois, m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir.
Donc on se lance dans la première phase qui est la démolition, si l'on peut dire, de la dépose de l'éclairage public. Et donc on finance à 92%, ça veut dire qu'on a une remise de 8% du ciel sur la valeur initiale de ces travaux. Ça fait partie de la logique contractuelle que nous avons avec le ciel. Des questions par rapport à ça ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, qui est pour ? On va valider la décision donc de dépose de l'éclairage et de la démolition du centre-bourg par le ciel. Question suivante. C'est du formalisme qui est très contraignant parce que tant qu'on n'a pas une idée sur les subventions, c'est difficile de bâtir un budget d'investissement. En 2023, la commune a déposé dans le cadre de la campagne DECIL, c'est-à-dire les dotations de soutien à l'investissement local, donc financement d'État. 2023, un dossier de subvention pour les travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et intégration de locaux petite enfance, essentiellement donc le jardin d'enfants et la réhabilitation du relais. Cette demande a été instruite par les services préfectoraux, mais elle a été classée sans suite par manque de crédits disponibles compte tenu du nombre de dossiers déposés. Nous avons, dans l'arrêté préfectoral, j'y reviendrai après, l'indication que nous n'avons rien eu par manque de financement et que le dossier était tout à fait correct au titre de la DECIL. De plus, depuis 2023, DECIL finance en priorité les projets portés par des entités intercommunales. C'est ce que nous avons découvert quand nous avons rencontré le sous-préfet qui nous a dit « Ah mais non, ça ne peut plus être de la DECIL. » Le préfet a décidé que c'était que pour l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on change les règles en cours de jeu. Et sans qu'on en soit inverti, surtout qu'on est dans un processus, on nous dit « Vous pouvez avoir une subvention, mais vous ne l'aurez pas parce qu'on n'a plus de sous. Mais on va changer après de registre. » Bref. Compte tenu de ces éléments, la préfecture nous a indiqué que conformément à l'article R 2334-25 du Code général des collectivités territoriales, si notre dossier présenté au titre de la programmation 2023 n'avait pas bénéficié d'une subvention, il était possible de déposer à nouveau ce projet à la programmation 2024 à condition que le dossier soit rigoureusement identique ou avec des actualisations mineures ne modifiant pas la nature du projet. On est autorisé à renouveler, c'est déjà pas mal. Pour autant, avec l'appui technique et l'accord des services préfectoraux, la sollicitation et la participation financière de l'État se fait désormais via la DETR et le Fonds vert. DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est-à-dire qu'on est passé de la DECIL urbaine, on était éligible, à territoire rural. Ou avant que le préfet ne décide, nous n'étions pas éligibles. Pour la DETR, le fait d'avoir déjà démarré le projet permet uniquement de renouveler la demande 2023 en conservant le coût et la nature du projet présenté en 2023. Par contre, la demande subventionnable est limitée à 1,8 million, alors que dans la DECIL, il n'y avait pas de limite. Avec un taux minimum de 20% et une bonification du taux possible de 5%, en cas d'utilisation dans le cadre du projet de bois du Massif central sur présentation d'un certificat BTMC. Bon, donc déjà, vous avez compris, on refait une demande dans un autre cadre avec de toute façon un montant plafonné. Donc on aura mécaniquement moins que si on avait été traité dans le cadre de la DECIL. Au titre du fonds vert, seules les dépenses de rénovation énergétique sont retenues avec un taux de subvention de 33%, qui est le taux moyen constaté en 2023. La commune doit donc déposer son dossier pour la campagne, et non pas la compagne, la campagne DETR 2024 et pour celle du fonds vert. Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. Alors je vous dis, c'est une parenthèse, J'en parlerai après. J'ai déjeuné avec Quentin Bataillon samedi et je lui dis, c'est pas compliqué. Si vous ne voulez rien nous donner, vous nous le dites, on fera 100, mais qu'on arrête de tergiverser sur ce genre de situation. Donc pour la DETR, on a un montant global de travaux de 4 535 518 euros. Et on estime qu'on pourrait avoir 414 000, soit 23% dans le cadre de la DETR, plus 90 000 de bonification pour les bois du massif central, soit 504 000 euros, ce qui représenterait 28%. Pour le fonds vert, nous avons un total de 1 730 428 euros. Et si nous appliquons 23%, qui est un taux moyen observé en 2023, nous pourrions attendre 571 041 euros. Ça doit faire 33, je pense. Ça doit faire 33, oui, mais ça doit faire 33, il me semble. À vérifier, mais bon. C'est 23. Bon. Le conseil, la commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il demandait au conseil municipal de solliciter pour ce projet une aide financière auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux du fonds vert. De m'autoriser à déposer et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Donc c'est le renouvellement de la demande qu'on avait fait l'an dernier, dans un autre contexte, avec d'autres contraintes. Alors là aussi, je le dis en off parce que ça va un petit peu énerver Frédéric, mais sur le fonds vert développement durable, on en est au point où on a quand même un éminent fonctionnaire de la préfecture qui nous dit vous n'y êtes pas éligible parce que vous n'arrivez pas à une économie supérieure à 40%. Non, on est à 75%. Bon, donc il va falloir prouver qu'on est bien au-dessus de 40%. Pour moi, 75% d'économie, c'est toujours supérieur à 40%. Donc ça a énormément énervé Quentin Bataillon. Je lui ai donné bien sûr tous les documents. Il m'a dit j'appelle le préfet. Je lui ai dit surtout pas, parce que là on est en cours de montage du dossier. Quand on va avoir validé cette décision, demain, Frédéric va se mettre en ligne pour bâtir la demande de subvention. Et on voit le préfet, le sous-préfet pour les vœux, Michel, vendredi prochain, il y aura Quentin. Peut-être qu'on va prendre le sous-préfet à part pour lui demander qui décide à la préfecture, et y compris au niveau de l'État, si c'est le politique ou si ce sont les fonctionnaires. Il faut nous le dire, c'est tout. Voilà. Ça m'a aussi, vous l'avez compris, un petit peu énervé. Voilà. Quand on fait les choses dans les règles, que tout le monde nous dit c'est un excellent dossier, mais vous n'avez rien parce qu'il n'y a plus de sous et qu'après on nous dit qu'il faut recommencer, mais attention, là ça ne va pas, c'est un petit peu crispant. Surtout pour celles et ceux qui étaient au vœu de Quentin à Villars, et où le maire de Villars s'est enorgueilli d'avoir obtenu 1,5 million auprès directement du ministère avec l'appui de Quentin. Voilà. Donc je vous demande de valider cette demande de subvention DETR et fonds vert pour le financement de l'école Jules Ferry. Des questions par rapport à ça? Donc après, Frédéric va bâtir le dossier et puis quelle échéance on peut estimer avoir une visibilité sans parler de certitude. À mon avis, pas avant l'été. Hein. Ouais. Bon. Mais peut-être que par les petites portes qu'on arrive à entrouvrir, on aura des informations au préalable. Des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour ces demandes de subvention à l'unanimité? Et je vous en remercie. Le point suivant, le point 7, concerne la convention d'adhésion aux prestations du Centre de gestion de la Loire. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d'accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Nous sommes affiliés au Centre de gestion. La ville de Saint-Étienne n'est pas affiliée au Centre de gestion. J'y reviendrai ultérieurement. De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, et c'est le cas du service dédié à la médecine professionnelle et préventive et du service de prévention des risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales qui en font la demande par le biais d'une convention. Les objectifs principaux sont, d'apporter plus de lisibilité à l'action complémentaire des deux services qui constituent ce pôle de santé au travail, médecine du travail et prévention des risques professionnels. De simplifier la gestion administrative, cette convention n'est plus limitée à 3 années, mais peut être renouvelée jusqu'à 12 ans par période de 3 années. De simplifier la gestion financière, la contribution prend la forme d'une cotisation additionnelle s'appliquant sur la même base et selon les mêmes modalités que la cotisation obligatoire versée au centre de gestion. De favoriser le développement des actions de prévention en proposant un taux de cotisation mutualisé, médecine et prévention, plus attractif. De responsabiliser agents et collectivités dans la lutte contre l'absentéisme important et anormal aux visites médicales en instaurant une pénalité pour les absences non justifiées. Le conseil d'administration du centre de gestion 42, donc de la Loire, réuni le 19 décembre dernier, a validé les propositions tarifaires qui s'appliqueront à partir de 2024. Donc vous avez un tableau où vous avez donc, en fonction du nombre d'agents, les taux donc des cotisations, sachant que nous, on est dans la séquence 100 à 249. Les collectivités affiliées pourront demander des actions supplémentaires et les collectivités non affiliées accéder à des services de prévention dans les conditions suivantes. Donc là, vous avez des prestations qui sont tarifées à la demi-journée pour les collectivités ou affiliées ou non affiliées. Il vous est donc demandé d'approuver les termes et conditions de la convention d'adhésion aux prestations pôle prévention et santé au travail dédiée à la médecine du travail et à la prévention des risques professionnels au bénéfice de nos agents. Donc, option 3, bien, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire et de m'autoriser à la signer ainsi que tout document afférent. Des questions? Donc on est bien évidemment adhérent compte tenu de notre taille du centre de gestion, donc qui là nous propose des contrats liés à la médecine du travail et à la prévention, mais également sont nos partenaires, je dirais, pour tout un ensemble d'autres actions, en particulier de formation professionnelle, de recrutement, etc. Des questions? Donc c'est une convention qu'on va renouveler. Corinne Mourg.
Oui, du coup, je vois qu'il y a un coût pour les absences aux visites médicales, que c'est un sujet que je connais assez bien. Et du coup, est-ce qu'on constate, nous, parmi nos agents municipaux, des gens qui ne se rendent pas aux visites médicales obligatoires? Il y en a beaucoup.
C'est nous?
Oui.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'est un cadre type.
Oui, mais...
Alors, c'est vrai qu'en fonction de la taille de la collectivité, ça peut être une problématique. Bon, chez nous, ce n'est pas vraiment le cas. Mais bon, ça fait partie de la convention.
Merci.
D'autres questions? Donc, je vais mettre au vote cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, nous validons la convention d'adhésion aux prestations du centre de gestion de la Loire. Donc vous avez le détail dans la convention de l'ensemble de ces paramètres. Le point 8 concerne donc les forfaits mobilité durable. Par délibération 22-12-17 du 12 décembre 2022, le Conseil municipal a approuvé le versement d'un forfait mobilité durable en application des dispositions prévues par le décret 2020-1547 et l'arrêté du 9 mai 2020, à compter de l'exercice 2023, et on a précisé les modalités d'octroi. Les dispositions du décret ont été modifiées par décret 2022-1557 du 13 décembre 2022. Sont désormais visés les déplacements effectués entre la résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail. Je vous rappelle ce que c'est. C'est une prime pour nos agents qui utilisent des modes, je dirais, doux de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini au 6.14.6.15 de l'article R311.1 du Code de la route, donc etc., etc., en tant que conducteur ou passager de covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R3261.13.1 du Code du travail, l'arrêté du 13 décembre 2022 porte le montant annuel du forfait mobilité durable A. Donc, c'est une actualisation tarifaire. 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport à mobilité durable précité donc, est comprise entre 30 et 59 jours par an. 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport à mobilité durable précité est comprise entre 60 et 99 jours. Et 300 € par an lorsque l'utilisation du moyen de transport à mobilité durable précité est d'au moins 100 jours. Pour permettre à la collectivité d'effectuer un contrôle de l'utilisation des cycles ou cycles à pédalage assisté personnel ou des engins de déplacement personnel motorisés ou l'utilisation des services de mobilité partagée, les agents doivent fournir une attestation sur l'honneur au service ressources humaines de la mairie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Un décompte calendaire des déplacements à mobilité durable. Les autres dispositions de la délibération 22-12-17 restent inchangées. Je vous propose donc d'approuver le versement du forfait mobilité durable en application des dispositions du décret 2022-1557 et de l'arrêté du 13 décembre 2022 à compter de l'exercice 2024. Donc c'est pour définir également les modalités de justification de ces déplacements. Actuellement, je crois que nous avons 3 ou 4 agents concernés. Des questions ? Donc, je vous propose de valider cette décision. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, nous pouvons la mettre en vigueur à partir de 2024. Enfin, dernier point de l'ordre du jour. C'est toujours l'actualisation de tableaux des emplois de personnel communal. Conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique, visé les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Ça, c'est le principe. Un adjoint territorial d'animation titulaire à temps complet a demandé une disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 7 mois à compter du 1er janvier 2024, donc un agent du Pôle Enfant Jeunesse. Il est nécessaire de pallier son remplacement et la réorganisation du service Enfance Jeunesse et Vie Associative et d'ouvrir un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet à raison de 75% du temps plein. Donc on va remplacer cette personne qui est mise en disponibilité par un poste d'adjoint territorial d'animation à 75%. Je vous propose donc la création du poste précité en application des articles L332-13 et L332-14 du Code général de la fonction publique à compter du 22 janvier 2024, un poste d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 75% du temps plein. Et de porter donc le tableau des emplois permanents ouverts de la commune comme annexé, vous avez donc l'actualisation des tableaux derrière. Des questions par rapport à ça ? Donc, vous en avez pris l'habitude, à chaque conseil, on vous présente des actualisations par rapport à nos mouvements de personnel. Quand cette personne reviendra à temps complet, on refera une délibération pour supprimer le 75% et réintégrer le poste à temps complet. Des questions ?
Oui. Corinne, du coup, pourquoi on fait un 75%?
Alors en fait, bon, je pense que Rémi peut peut-être répondre.
Oui, Rémi Mounier. On va répartir son temps de travail. Le temps de travail, les 25 restants vont être répartis entre les personnes qui sont déjà en place et on va augmenter leur temps de travail. Si elles avaient un temps de travail qui était un peu faible, donc de façon à sécuriser aussi à ce niveau l'emploi au niveau du pôle enfant jeunesse, on va augmenter le temps de travail des personnes présentes et rester à 75% sur la personne qui remplacera physiquement notre le départ.
Ce qu'on vous propose, bien évidemment, c'est après réflexion et proposition des responsables. n'est pas une démarche mécanique à notre niveau. C'est bon, ça émane en particulier d'Ayensen qui dit bon, là, comment on peut gérer la situation. Là aussi, dans un souci aussi d'optimisation des ressources et puis de l'impact budgétaire que ça peut avoir.
Oui, et puis de l'organisation aussi, puisqu'on a déjà eu des transferts de personnel au sein de la structure, notamment une personne qui est passée en administratif et qui s'occupait aussi de la ludothèque. Du coup, c'est du temps de travail qu'on a réparti sur les autres personnes. C'est surtout dans l'organisation, dans une organisation plus simple du service. Et le point intéressant dans cette réorganisation, c'est qu'on se retrouve de nouveau avec une personne à 100% au niveau de l'accueil en administratif, ce qui n'était pas le cas et ce qui limitait les temps d'accueil et pour les utilisateurs du pôle enfant-jeunesse et pour les associations.
Alors, je vous avais annoncé un conseil qui serait court. Vous avez compris qu'on l'a convoqué pour la délibération concernant la cession du terrain de Jean Massé, puisque le calendrier se précipite. Je vous remercie de votre attention. Et puis, voilà. Pour moi, je déclare le conseil municipal clos. De quoi donc ? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Je ne peux même pas dire que je suis pressé de rentrer, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va mettre cette actualisation des emplois au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, voilà. On a actualisé notre tableau des effectifs. Je vous en remercie et je déclare donc le conseil clos. Merci. Donc, je demande aux élus qui sont présents de rester un petit moment. Hein.